Making Waves Avignon présente.
À la jeunesse, le micro.
En direct du Festival d'Avignon.
Et les micros, ils sont à qui?
Ils sont à qui? Ils sont à qui?
Ils sont à nous.
L'éducation est l'arme la plus puissante qu'on puisse utiliser pour changer le monde. Nelson Mandela. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à la première de À la jeunesse les micros, qui ne s'appelle plus vraiment À la jeunesse les micros, mais que nous continuerons à appeler À la jeunesse les micros parce qu'on n'a pas tant vieilli depuis l'année dernière. Aujourd'hui, nous nous plongeons dans un sujet fascinant et omniprésent dans nos vies, Internet et les algorithmes. Les algorithmes sont partout. Ils nous recommandent des vidéos, filtrent nos flux d'actualité, influencent notre vision du monde. Pourtant, combien d'entre nous comprennent vraiment comment Internet fonctionne? Comment les algorithmes qui font entièrement partie de nos vies fonctionnent? Nous parlerons aussi de leurs usages, parfois politiques, et discuterons de l'impact qu'ils ont sur nos sociétés. Nous sommes une émission populaire. Bienvenue, camarades. Avec moi au plateau aujourd'hui, Renaud Lupovici, Linda Souakria, Noah Dimenza et Bertie Gado. Merci à toutes et à tous. C'est parti pour la saison 2.
Et les réseaux, ils sont à qui?
Et les réseaux, ils sont à qui?
Et les algos, ils servent à quoi?
Et les algos, ils servent à quoi?
Pour commencer l'émission, nous allons tout de suite écouter le témoignage de deux jeunes gens qu'on a rencontrés au lycée Saint-Joseph à Avignon sur leurs usages d'Internet et plus précisément des réseaux sociaux. Des témoignages recueillis par Luce Bréant et Renaud Lupovici.
Et nous nous avisâmes de naître au bon moment.
Moi, je m'appelle Louison, j'ai 14 ans et j'ai grandi. J'ai quand même été assez protégée des réseaux sociaux. Mes parents m'ont élevée dans une sorte de bulle. Je faisais l'école à la maison, j'étais dans la nature, etc. Et en fait, je suis un peu tombée dans ce milieu assez récemment, je dirais il y a quelques années. Et donc, je me suis pris un mur dans la figure. Hein. Vraiment, je suis vraiment devenue droguée. Maintenant, des fois, je regarde mon temps d'écran et je me dis « mais c'est pas possible, c'est passé en 5 minutes ». C'est plus, je pense, une manière de nous tenir, nous les jeunes, de nous mettre dans des sortes de cases. Je ne sais pas comment expliquer ça.
Alors, on casse Internet ou pas?
Je m'appelle Jeanne Quadri, j'ai 14 ans. C'est horrible, mais moi je suis une de ces personnes où si j'ai pas de plan dans la journée, si j'ai rien à faire, si j'ai aucune série, aucun film, et d'ailleurs ça c'est aussi des écrans, si j'ai aucune chose à faire, je me dis bah j'ai passé le temps, je vais regarder les réseaux.
Et moi du coup, enfin ça m'intrigue parce que j'ai vraiment l'impression que tout ce qui est les réseaux sociaux, ça essaie de puiser dans nos âmes pour chercher ce qui nous tienne en haleine pour qu'on continue et que ça s'arrête jamais. Par exemple moi quand je scrolle depuis maintenant quelques temps et que je me dis mais en fait faut que j'arrête, et puis là d'un coup il y a quelque chose de nouveau très intéressant et ça me retient, j'arrive pas à arrêter.
Des fois je me pose la question si j'étais adolescente avant et que j'avais pas eu internet, est-ce que ma vie serait pareille et est-ce que je serais plus heureuse ou plus malheureuse?
Et alors pour toi, on casse internet ou pas?
En fait je pense que il faudrait, mais qui voudrait casser maintenant qu'on est tous des drogués?
Et nous nous avisâmes de naître au bon moment.
À la jeunesse, les micros!
Les micros!
Alors, génocide en Palestine, Jacques Rancière, il n'y a pas de crise de la démocratie parce qu'il n'y a pas de réelle démocratie. Génocide en Palestine, pub sponsorisée, Nina Ricci.
Nicolas Framont qui tweet sur le somme de Macron. Comment trouver un thérapeute en ligne plus facilement? Un projet en Rwanda afin abandonné par Utopia 56 qui nous transmet ça, et une pub pour du lubrifiant.
Macron assure que personne ne l'a emporté aux législatives anticipées de contre-attaque. Une vidéo d'Hugo Décrypte, un mec qui me parle de café, un maître cafetier, et une pub pour TCL.
J'ai plus de batterie.
Alors on vient de lire un peu les premiers feeds Insta qu'on trouve quand on ouvre notre application. Ce qu'on remarque, c'est que c'est un peu hétéroclite, c'est hyper bizarre. On passe d'un génocide à une pub pour du lubrifiant. Il y a un problème.
Il y a un vrai impact que ça fait sur nous. J'ai l'impression d'être bombardée d'infos toute la journée et que ça passe très très vite dans nos têtes et ça passe très très vite devant nos yeux aussi.
Mais est-ce que vous, du coup, ça vous empêche de poster sur les réseaux parce que justement vous avez peur d'être complètement dissonant par rapport à des informations hyper graves comme ça ?
Je crois pas, mais c'est vrai que c'est pas un souci pour moi, mais c'est surtout quand on consomme en fait que ça me perturbe de voir autant de trucs si différents, des trucs horribles, des trucs si légers. Ouais, c'est hyper étrange.
Mais comment émotionnellement on a l'impression que vous êtes un peu dans des choses qui vous bousculent et ensuite qui vous caressent un peu. Comment vous passez de la Palestine à, je sais pas, des lubrifiants ? Qu'est-ce que ça suscite chez vous ?
Bah, ça fait... Il y a un moment où on a l'impression d'être ancré dans une réalité qui est liée dans le monde. Ça nous relie à certains événements dans le monde, comme des génocides qui sont en cours, par exemple. Et à côté de ça, il y a des moments où ça fait beaucoup de voir plein d'images qui sont hyper violentes et qui font du mal à voir, où c'est l'empathie qui marche. Et c'est vrai qu'il y a des moments où, bah, dans les algorithmes, après, on voit des vidéos de petits chats, des choses comme ça, des choses qui sont un peu douces. Et en fait, c'est comment est-ce qu'Internet peut nous mettre une connexion avec le réel et nous connecter avec le réel en même temps. Finalement.
Ouais, ça sera jamais le cas quand tu te renseignes autrement que ça. En fait, si tu es en train de lire un bouquin, ça va rester un bouquin sur un thème. Si tu es en train de regarder un film, c'est un film. Mais là, on est sur des contenus tellement courts, tellement différents les uns des autres, bah, que ça crée ce truc-là hyper bizarre, en fait.
Justement, en parlant de comment les réseaux sociaux rendent un peu addict, nous avons Candice Florence, stagiaire journaliste à Seineweb, qui nous a préparé une chronique sur comment les réseaux sociaux sont volontairement façonnés pour nous rendre addicts. À toi, Candice.
Bonjour à toutes et à tous, déjà. Et puis, j'ai une question pour ceux qui sont autour de la table, mais aussi ceux qui sont dans le public. Avez-vous déjà joué à des machines à sous ?
Non.
Beaucoup.
Bah, la réponse, elle est plutôt mitigée en général. Non, pour la plupart. Mais moi, je vais vous répondre que vous y avez tous et toutes déjà joué avec vos téléphones portables. Et oui, le feed des réseaux sociaux, ou flux continu en bon français, est basé sur le principe des machines à sous. Cela explique que nous y soyons aussi accros. Je suis sûre que tout le monde autour de cette table est déjà allé sur Insta ou autre et n'a réalisé qu'une heure, voire deux heures après, qu'on y était encore. On m'a dit que c'était encore pire avec TikTok. Il paraît que les jeunes adorent les réseaux sociaux, mais pour moi, c'est une perte de temps qui nous éloigne des autres alors que ça a été créé pour plutôt nous en rapprocher.
Mais attends, Candice, t'es jeune et t'es en train de nous dire que tu n'es pas sur les réseaux sociaux ?
Bien sûr que je suis sur les réseaux, mais j'aimerais bien pouvoir décrocher. Je vais vous expliquer pourquoi c'est si difficile. À la base, tous ces réseaux, ils ont été imaginés par les mêmes tech bros qui sont tous allés à Harvard suivre le même degree de psychologie du comportement. Et ce détail, il a son importance, car ils ont appris à, en fait, capter notre attention pour nous nourrir de pubs personnalisées et se faire de gros billets. On en revient aux machines à sous. Et pourquoi est-ce que l'on y joue d'ailleurs ? Parce qu'on a une chance potentielle de gagner. Eh bien, avec Instagram, c'est pareil. On scrolle parce qu'on a une chance de tomber sur du contenu qu'on aime encore plus. Attention, je vais faire une comparaison des plus douteuses, donc restez avec moi, avec les croquettes pour chiens. Je ne sais pas si vous avez déjà eu un chien, mais moi j'en ai eu un. Il s'appelait Eros. Bref, mon chien, quand il aimait vraiment un truc, il le mangeait tellement vite qu'il lui arrivait de vomir juste après, et puis de manger son vomi dans la foulée.
Ça a l'air très ragoûtant, mais où tu veux en venir concrètement ?
J'y arrive. Pour éviter ça, les fabricants de croquettes ont décidé de les faire pas trop trop bonnes. Eh bien, le feed d'Insta, TikTok ou Facebook s'est construit pareil. Quand tu scrolles, c'est rarement un contenu incroyable. Donc, dans l'espoir de trouver mieux, tu continues à scroller. Et t'y retournes aussi parce qu'on t'envoie une notif, comme une sorte de gourmandise, qui te redonne accès à une infinité de contenus qui te confortent dans tes idées, mais qui jamais ne te confrontent au contradictoire. Tout le contraire du journalisme, en fait. Alors, les réseaux, en plus de nous mentir, ils nous enferment et nous censurent même. En cours de journalisme, on a parlé avec une femme qui bosse pour Insta. Elle travaille avec les influenceurs et influenceuses à Dubaï.
Donc, en cours de journalisme, vous apprenez à devenir des influenceurs ?
Bien sûr que non. Mais en fait, ce qu'elle nous a répondu, c'est que la plateforme, elle censure certains contenus dits sensibles, pour soi-disant protéger les jeunes. Elle a donné l'exemple des médias internationaux qui montraient des images violentes de la guerre à Gaza. Et pour moi, en fait, ils empêchent simplement les jeunes de s'informer et préfèrent qu'ils consomment des contenus tuto beauté sponsorisés, qui, eux, leur rapportent. Alors on protège qui ? Parce qu'en attendant, le recours à la chirurgie esthétique et les tentatives de suicide sont en hausse chez les jeunes femmes. Les réseaux sociaux, nous y sommes attachés comme mon chien, Eros, à sa laisse. Donc je vais peut-être finir mon été avec un téléphone à touche pour me sevrer de mes 8 réseaux sociaux. Et oui, j'ai compté. Et vous ? Vous en avez combien ?
Merci Candice pour cette chronique. Nous recevons tout de suite nos invités. Mais avant ça, jingle.
À la jeunesse, les micros.
Les micros. Ils sont à qui ?
Ils
sont à nous.
Nous avons avec nous aujourd'hui Baptiste Amann, metteur en scène de la pièce Lieu commun, Vladimir Steyer, metteur en scène de Aaron, et Katia Roux, chargée de plaidoyer chez Amnesty International. On est très heureux de vous accueillir. Bonjour.
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 Bonjour. Bienvenue.
Alors, vous avez écouté la chronique de Candice. Vladimir, qu'est-ce que ce que vient de dire Candice suscite chez vous ?
Ben, plein de choses. Voilà, il y a notamment toutes les questions de comment les réseaux sociaux, parce que voilà, au début, vous parliez plutôt d'Internet en général, est-ce qu'il faut briser Internet ou je pense qu'il faut briser les réseaux sociaux précisément parce qu'ils ne sont plus du tout sociaux. Voilà, du tout. On voit toutes les études où on sécrète de la dopamine dès qu'on est sur les réseaux et qu'on est complètement esclave de ça. Moi, il y a un auteur qui me parle beaucoup, qui est Alain Damasio, il parle de technococon. C'est-à-dire comment les nouvelles technologies, en fait, nous mettent dans un cocon donc qui, à la fois, nous cajole, nous rassure. Voilà, c'est quelque chose de très protecteur, un cocon, et en même temps, c'est quelque chose qui nous coupe entièrement du monde. Et donc, moi, c'est vraiment la question de comment, aujourd'hui, on est un peu tous des esclaves volontaires de tout ça. Parce qu'on se dit tous, il faudrait qu'on coupe nos téléphones, qu'on réduise nos temps d'écran, et en pratique, très, très peu arrivent à le faire.
Katia, est-ce que vous avez quelque chose à nous dire là-dessus, sur comment est-ce que les algorithmes, par exemple, feraient pour créer ces cocons ?
Oui, et bien c'est toute la question de la dépendance. Ça a été très bien dit depuis le début de l'émission. Moi, j'ai entendu une expression comme « puiser dans nos âmes ». On reçoit des contenus et j'imagine que vous avez déjà tous expérimenté le fait de vous intéresser à un sujet, de recevoir juste après une publicité sur ce sujet-là dans vos fils d'actualité. Pourquoi ? Parce que les algorithmes, en fait, fonctionnent comme des pisteurs. Ils vont littéralement pister tout ce que vous faites en ligne et identifier vos centres d'intérêt. Pourquoi ? Ça a été dit pour vous proposer plus de contenu, pour que vous restiez plus longtemps en ligne. Comme ça, on collecte davantage de données personnelles, ce qui permet de proposer encore plus de contenu personnalisé, mais surtout, on génère des revenus publicitaires. Donc c'est vrai que tout est fait, et ça c'est extrêmement important, tout est fait pour garder les utilisateurs et l'utilisatrice le plus longtemps possible en ligne. Et donc cette dépendance, en réalité, elle ne vient pas nulle part. Elle est créée, elle est voulue, elle est consciente par les entreprises des réseaux sociaux dans cette espèce d'économie de l'attention. On en a parlé, il faut capter l'attention le plus longtemps possible et cela à n'importe quel prix. Et ça peut avoir effectivement des impacts assez dramatiques dans la vie réelle. Ça crée de la dépendance. En même temps, en face, on a une certaine impuissance, même si les jeunes sont quand même extrêmement lucides, et on l'a entendu dans les témoignages et dans tout ce qui a déjà été dit, par rapport à cette expérience en ligne, mais un peu impuissant pour changer. Moi, je pense qu'il ne faut pas forcément casser Internet ou fermer les réseaux sociaux, il faut réparer Internet et changer les réseaux sociaux.
Et éduquer à leur utilisation.
Exactement, absolument. Et c'est très bien qu'on puisse en parler aujourd'hui en ce sens.
Mais c'est très intéressant ce que vous dites, parce que Internet a été pensé, le World Wide Web a été pensé pour connecter les gens. Comment on en est arrivé là ? Comment on en est arrivé à ces bulles qui enferment un peu les gens, par exemple, dans leurs idéologies ? Est-ce que c'est financé ? Est-ce que c'est fait exprès ?
Alors moi, je dirais oui, si la question m'est dirigée. Effectivement, Internet, c'est aussi une promesse d'émancipation, de partage, d'accès à l'information. Et il y a encore tout ça en possible, en fait, sur les réseaux sociaux. Ça peut être de formidables vecteurs d'idées, de créativité. Ça peut rassembler, ça peut permettre de sortir d'un isolement, ça peut mobiliser. Donc ça peut avoir un pouvoir très fort, mais en fait... Les entreprises des réseaux sociaux se sont vite rendues compte que pour pouvoir faire du profit, un élément clé, c'était la donnée, les données personnelles des utilisateurs. Et se sont mis donc à collecter massivement ces données, à les traiter pour faire du profilage en ligne. Et c'est ce qui permet maintenant de générer ces revenus publicitaires qui constituent à peu près 90% de leurs revenus. Donc là, très clairement, on est dans une économie de marché où la donnée est extrêmement lucrative et il faut aller la chercher et c'est un marché compétitif.
Mais alors... Quel est le trajet exact de ces données ? Qui les vend et qui les achète ?
Alors, qui les vend, ce sont les entreprises des réseaux sociaux et qui les achète, ce sont les publicitaires parce qu'ils ont tout intérêt à avoir une cible la plus précise possible pour pouvoir vendre leurs produits. Ça ne les intéresse pas forcément s'ils veulent vendre, je ne sais pas moi, des articles de sport, que leur publicité apparaisse sur le profil de personnes qui ne sont pas du tout intéressées par le sport. Donc c'est ça, il faut aller chercher le bon profil qui va être la bonne cible pour pouvoir vendre. Et ça se monnaie assez cher et c'est très rapide.
Et par exemple, dans ces réseaux sociaux, on peut avoir, juste un exemple, TikTok. Baptiste Hamann, dans Lieu commun, une pièce qu'on a été voir il y a quelques jours, qu'on a beaucoup aimée, qui se déroule 10 ans après la mort d'une jeune femme qu'on suppose avoir été assassinée. Il y a plusieurs histoires qui s'entremêlent et qui exposent la vérité de chacun. Il y a les questions de plein de choses. Il est notamment question de violence policière, de traitement médiatique sur Internet et de comment individuellement on s'autorise à faire justice ou pas. Et à un moment, il y a une jeune journaliste qui vient interviewer une réalisatrice sous un court format, le format de TikTok. Elle est très réticente. Pour vous, ça peut être quoi les dangers de ces formats-là ?
En tout cas, pour le personnage qui a interrogé, elle n'est pas de la génération des réseaux sociaux et tout à coup, enfin en tout cas de TikTok, des formats courts, de la pensée synthétique. Et ce que lui propose la journaliste, c'est une interview post-it où les post-it vont avoir un lien avec l'actualité et elle va avoir, elle, un motif un peu plus, une trame cachée parce qu'elle a derrière cette idée-là le projet de la faire réagir sur l'affaire en question. Puisque c'est une réalisatrice qu'elle admire, dont elle pressent le militantisme proche du sien et tout ça. Et il se trouve qu'en fait, mis sous cette pression-là, la réalisatrice ne va pas du tout emboîter le pas de la journaliste et au contraire réagir à l'inverse parce qu'elle estime qu'elle n'aurait pas le temps de déployer la pensée complexe que nécessiterait le traitement de ce fait-là. Et ça m'avait été inspiré par un envoyé spécial sur l'affaire de Tarnac, où Julien Coupa est interrogé par un journaliste d'envoyé spécial. Et en fait, il ne parvient pas à répondre à des questions toutes simples, puisque le journaliste veut l'entraîner sur un terrain dont lui ne reconnaît aucun des éléments critiques, ni même le lexique même. Et donc, en fait, il suppose qu'il faudrait rechanger déjà tout le paradigme, toute la perspective pour pouvoir répondre. Et je trouvais fort la vulnérabilité que peut générer aussi le médium auquel on se soumet ou pas.
Ça peut être un peu violent aussi, cette polarisation des idées, finalement.
Effectivement, forcément, on se dit qu'il y a une part irréductible de ce qu'on est qui ne sera jamais totalement traduisible, mais même dans un livre, enfin, il y a quelque chose comme ça, en tout cas dans le spectacle, moi je me suis intéressé à cette part d'irréductible qui nous condamne presque aux clichés. En fait, je suis assez pessimiste dans l'idée qu'on puisse démanteler les clichés, on sera toujours l'assignation on répondra toujours à l'assignation de quelqu'un, quand bien même on voudrait militer pour apparaître autrement. Donc en fait, là, l'idée était de se dire quels états d'âme génèrent la frustration de ne pouvoir rendre compte de notre part irréductible. Alors, ça prend différents formats. Effectivement, il y a cette interview TikTok aussi.
J'aimerais qu'on s'arrête un peu sur ce que vous dites. Nous allons tout de suite écouter Mariama, qui nous a préparé une chronique sur son usage des réseaux sociaux au fil des années. Tu as la parole, Mariama.
Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Mariama Seydi et je vais vous lire une petite chronique que j'ai écrite. L'algorithme du déni. Il était une fois l'algorithme du déni. Je ne vais pas vous raconter son histoire en chapitre, mais en era. Il va falloir suivre. Première era, découverte era. Tout commence à 9 ans par l'arrivée d'un objet gros, moche et pas accordé à la déco, installé en plein milieu du salon, telle une tour de contrôle. Je guette et finis par apprivoiser cet objet qui me brûle la rétine. Je surfe et je divague sur le net. Nouvelle routine, j'allume le PC et je vais sur jeuxdefilles.com. Progressivement, je vois apparaître des filles qui veulent me parler, puis me voir, me chauffer, me montrent leur sein et le pompon, leur triangle de Bermude. C'est ainsi que je découvre l'anatomie féminine en 3D HD. Ce sont les premières pubs que j'ai vues sur le net, mais ce n'est pas tout. J'ai vu des corps mutilés, torturés, morts sans floutage. Une angoisse montait dès lors que j'allumais le PC, comme si le FBI allait débarquer et m'arrêter pour avoir cliqué sur un site illégal. Puis est arrivée la bronzage era. J'ai alors 15 ans. C'est à ce moment que je comprends comment éviter les arnaques, les sites douteux. Mais je commençais à comprendre les possibles coups de soleil que le net pouvait m'infliger, mais je savais utiliser mon SPF 50. Puis est arrivée la glitter era, aka la paillette era. Je maîtrise ce que je consomme sur le net et le déni apparaît. Je veux voir uniquement des fleurs, des gâteaux, des paysages de rêve qui me feront décoller de ce monde, voler à travers les nuages où je cultivais ma bulle et ma tranquillité. Maintenant, 24 ans, je suis dans une safe era. Je filtre mon feed, fil d'actualité, tout en ayant plein de paillettes dans les yeux. Voici comment avoir la paix. Misogynie, bloc. Classisme, bloc. Racisme, bloc. Opportuniste, bloc. Coloriste, bloc, 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 bloc. La safe era est la meilleure des eras. Slay!
Et les micros, ils sont à qui?
Ils sont à nous!
Merci Mariama pour cette chronique qui s'appelle « Algorithme du déni ». C'est une formule assez curieuse, un mélange entre le numérique et l'humain.
Vladimir, algorithme du déni, ça vous dit quoi?
À chaque fois, j'ai les questions les plus compliquées.
Désolé.
Voilà, j'ai...
On fait exprès, en fait.
L'algorithme du déni, ben, ça m'évoque voilà, ce que vous venez de dire. C'est voilà, quand, dans nos fils d'actualité sur les réseaux, on a voilà, des gens qui reviennent voilà, fréquemment avec des propos racistes ou sexistes. Moi, j'ai fait le choix d'en garder deux. Voilà, dans...
Qui?
Voilà, dans mes amis Facebook, je ne vais pas le dire ici, mais comme ça, je trouve que ça permet d'avoir aussi une tendance voilà, de ce que peuvent penser voilà, ben, des gens d'extrême droite. Ou de... Et d'ailleurs, voilà, c'est des gens qui étaient avant à droite et qui maintenant voilà, ont légèrement glissé. Et donc, ben, je trouve que c'est bien aussi, voilà, de... Voilà, il y avait une chanson de Rage Against the Machine, c'était Know Your Enemy. Voilà, donc il faut connaître oui. Voilà, ses ennemis aussi et savoir leur façon de penser. Voilà, c'est un peu...
Ouais, je suis tout à fait d'accord. Je fais pareil. Hein. J'aime bien me renseigner sur des sujets auxquels je ne suis pas du tout d'accord. Mais c'est vrai qu'il y a un côté qui peut être hyper difficile si c'est un sujet vraiment sensible ou que personnellement ça nous fait très mal. Il y a un côté vraiment violent. Mais si on est prêt à le supporter, c'est vrai que moi je suis d'accord, c'est intéressant.
Voilà, c'est comme lire ben, de temps en temps le Figaro quand on va chez le dentiste ou, voilà, ou Valeurs Actuelles. Voilà, ça permet aussi de se mettre au jus parce que bah, y a la question des bulles de filtre. Donc comment en fait toutes les infos voilà, qui nous arrivent ben, sont en fait voilà, une bulle qui ne va que dans le sens de nos intérêts. Et quand on pense voilà, avoir des idéaux humanistes ou autres, on ne se pose pas, on se dit, ben c'est très bien, ça va dans notre sens. Dans ce, voilà. Mais à l'inverse, ben voilà, des gens qui commencent à regarder une vidéo ou une publication complotiste, ensuite vont être abreuvés que de ça. Quoi. Et c'est comme ça ben, qu'on arrive, voilà, quand on lit les statistiques, par exemple sur le nombre de gens qui croient que la Terre est plate, voilà, et qu'on voit la différence entre ceux qui ne consomment pas TikTok et ceux qui la consomment, voilà, c'est assez dingue. Quoi, donc...
Vladimir, moi, je voulais rebondir sur ce qu'a dit Mariama. Vous êtes le metteur en scène d'Aaron, une pièce qu'on a vue hier et qu'on a tous adorée. Cette pièce raconte l'histoire d'Aaron Schwartz, un jeune homme de 26 ans qui agissait activement pour la liberté de l'information pour tous sur Internet. Après avoir piraté les données du MIT, il se fera pourchasser par la police et il se réfugiera dans une salle de classe. Vis-à-vis de la liberté d'information que Aaron prône, pensez-vous pas qu'il faudrait, pas contrôler, mais réguler cette liberté pour que certains de nos plus jeunes tombent sur des contenus choquants?
Je tiens juste à préciser que le vrai Aaron n'a pas pris une salle de classe en otage.
Oui,
juste
bien
pour
sûr.
Préciser. Voilà.
Ben, c'est une question, voilà, c'est toujours pareil, c'est qui va décider de quel est le contenu qu'on peut interdire ou non. On voit déjà voilà, sur Facebook ou Instagram que des fois des tableaux de la Renaissance sont censurés juste parce qu'on voit un téton ou autre, alors qu'il peut y avoir des images complètement affreuses de massacres qui vont circuler. Donc je trouvais que c'est des questions très complexes, voilà, parce que dès qu'on touche, voilà, parce qu'on peut se dire aussi, il y a eu voilà, plusieurs débats dans l'histoire d'Internet sur voilà, est-ce qu'on interdit la pornographie sur Internet, voilà. Et par exemple, voilà, tous les gens dont voilà, Aaron Swartz, mais aussi les créateurs du web comme Tim Berners-Lee ont fait non, il faut garder une liberté totale d'expression, parce que si on se met à censurer d'un côté, ça va censurer de l'autre et au final, il n'y aura plus rien. On est clairement voilà, dans ce qu'on peut appeler voilà, le paradoxe de la tolérance, à quel point on tolère des choses et à quel point on peut tolérer l'intolérable ou non. Mais c'est vrai que le souci d'Internet, c'est comment réguler ça. Voilà, on voit, les seuls qui arrivent à réguler Internet, c'est les dictatures comme la Chine ou qui ont un Internet fermé. Mais
c'est aussi aux parents de faire attention à ce que leurs enfants regardent.
Tout à fait.
Et voilà. Justement, l'information, c'est le pouvoir. Mais comme tout pouvoir, il y a ceux qui veulent le garder pour eux. Ça, c'est le début du manifeste de la guérilla pour le libre accès par rapport à Internet qui a été écrit par Aaron Swartz en 2008. Vous jouez votre spectacle dans des salles de classe auprès de jeunes. Tous ces messages-là, comment ils le reçoivent?
Alors, comment ils le reçoivent? Alors, pour l'instant, on l'a plutôt joué dans des classes où il y avait une mixité sociale. Donc, on n'a pas trop pu échanger avec des jeunes qui pourraient avoir des idées réactionnaires ou d'extrême droite, ou en tout cas, ils ne les ont pas revendiquées. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de faire réfléchir les collégiens, les lycéens à cette question de l'information, c'est le pouvoir. Qu'on peut voir évidemment de deux manières différentes. Quoi. À la fois s'informer soi-même, c'est nous émanciper individuellement, mais aussi l'information, c'est le pouvoir. Ben, on le voit avec l'exemple de Bolloré et de nombreux autres milliardaires qui investissent massivement dans les médias. Voilà. Aujourd'hui, pour accéder au pouvoir, il faut maîtriser l'information. Donc ça a été Fox News aux États-Unis. Là, actuellement, avec C8, CNews, on a vraiment vu le pouvoir que ça pouvait avoir et comment, et c'est d'ailleurs le talent des gens d'extrême droite actuellement, partout en Europe et même dans le monde, c'est de réussir à investir tous ces médias. Là, récemment, j'ai vu quelque chose sur la Hongrie. Viktor Orban détient 400 médias. Voilà, donc c'est
400
quasi
médias.
400 médias, donc de tous les types. Voilà, donc mais aussi bien les journaux papier que les médias en ligne ou autres. Et donc ça nous pose la question.
Mais justement, en parlant de ça, il y a Katia Roux qui est là, qui est venue nous parler un peu de l'utilisation des algorithmes à des fins politiques et à des fins sécuritaires aussi. Les dangers que cela pouvait engendrer.
Oui, absolument, parce qu'en fait, ce qu'on a commence à effleurer, c'est la manière dont les algorithmes vont pousser certains contenus, et notamment les plus extrêmes, les plus incendiaires, les plus choquants, parce que ce sont des contenus qui font réagir, en fait. Et toujours dans cette idée de garder les personnes en ligne, ça peut permettre ça. Donc nous, on l'a constaté dans certaines situations, notamment des crises. Ça peut être lors de conflits, ça peut être lors de crises sanitaires. On l'a vu avec la période du Covid. Ça peut être au moment d'élections aussi. Les algorithmes vont pousser un certain nombre de contenus qui vont polariser, cliver, parce qu'ils font réagir, parce qu'ils suscitent de l'engagement.
Mais vous nous avez aussi parlé de surveillance, non?
Oui, absolument.
De l'utilisation des algorithmes pour surveiller peut-être les manifestants, pour tout ce qui tourne autour de la sécurité.
Oui, parce qu'en fait, aujourd'hui, une sorte de réflexe hein, qu'on voit se développer du côté des gouvernements, c'est de, dès qu'il y a un enjeu sécuritaire, recourir aux technologies pour répondre aux questions sécuritaires, et notamment aux technologies de surveillance. On pense souvent à la reconnaissance faciale qui, dans certains pays, est utilisée, par exemple, pour surveiller les manifestations et identifier les militants, les manifestants pacifiques et potentiellement les arrêter après chez eux. Ça a été le cas, par exemple, en Russie. Ça a aussi été le cas aux États-Unis où la police new-yorkaise a utilisé très largement les technologies de reconnaissance faciale dans le cadre du mouvement Black Lives Matter, par exemple, pour identifier les manifestants, les militants, et les suivre, les surveiller, et éventuellement, après, prendre des mesures de répression. Donc, c'est souvent au nom de la sécurité qu'on va déployer la surveillance. Et nous, à Amnesty International, on a constaté, évidemment, énormément d'abus en termes de liberté fondamentale, liberté d'expression, droit de manifester, liberté d'association.
On va s'interrompre un instant. Je laisse la parole à Louise Bréant, qui va nous présenter Café Gata pour un moment musical en live.
Et les micros, ils sont à qui ? Ils sont à nous.
En direct du Festival d'Avignon.
À la jeunesse, les micros !
Bonjour tout le monde, nous nous retrouvons aujourd'hui avec le groupe Café Gata, que nous sommes très heureux de retrouver sur scène. Pour les présenter, c'est un trio avec Niels Kassap à la clarinette basse, Thomas Loret à la guitare et Clémence Gabrielidis au chant. Bienvenue à vous.
Merci.
Votre musique est un mélange de plusieurs influences, mais je vais vous laisser nous en dire un peu plus.
Oui, bonjour à tous, merci. Alors nous, on est le trio Café Gata et on a pris le pari de faire rencontrer une tradition et une modernité. Donc on a été puisé dans un répertoire traditionnel grec et turc, d'abord pour les faire cohabiter le plus possible et pour rappeler leur correspondance et leurs liens. Et puis on a fusionner ça avec des musiques dites actuelles, donc un peu de jazz par-ci, un peu de pop par-là, et puis un peu de rock aussi, histoire de faire résonner tout ça et de mettre au goût du jour des morceaux très anciens qui nous racontent l'histoire du monde, finalement.
Alors, bonjour, Niels Kassap, clarinette basse, et on va vous jouer un morceau qui s'appelle Fertena Pio, qui est un morceau grec qui date en fait des années 80, mais qui est devenu plus ou moins un tube dans la musique traditionnelle grecque et qui a été repris par un groupe qu'on aime beaucoup qui s'appelle Bratch. Voilà.
C'est à vous, place à la musique.
Στο τραπέζι μου, κούκλα μου γλυκιά, χόρεψε και σπάστα όλα τούτη τη βραδιά. Στο τραπέζι μου, κούκλα μου γλυκιά, αγόρεψε και σπάστα όλα τούτη τη βραδιά. Πάρε το ντέφι και ήρθε στο κέφι, μη μου χαλάς τα γούστα. Σπάς το κορμί σου, έλα κουνήσου και τίναξε τη φούστα. Φέρετε τα πιο αξιμέρωτο, ο, πω, 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 μια κοπέλα που αγαπώ. Φέρετε τα πιο αξιμέρωτο, ο, πω, 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 μια κοπέλα που αγαπώ. Thank you. αγκάλιασέ με και φίλησέ με και εγώ τι θέλει ας γίνει. Μόνο κακία και μοχθηρία μες στη ζωή θα μείνει. Φέρετε να πιω να συμπεριωθώ, όπο πω 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 μια κοπέλα που αγαπώ. Φέρετε να πιω να συμπεριωθώ, όπο πω 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 μια κοπέλα που αγαπώ. Ανέβα στο τραπέζι μου κούκλα μου γλυκιά, κόρεψε και σπάστα όλα τούτη τη βραδιά. Ανέβα στο τραπέζι μου κούκλα μου γλυκιά, κόρεψε και σπάστα όλα τούτη τη βραδιά. Στο τραπέζι μου, κούκλα μου γλυκιά, κόρεψε και σπάστα όλα τούτη τη βραδιά. Αμάν, κούσο, αμάν, για βρούμα. Αμάν, κούσο, αμάν, για βρούμα. Αμάν, κούσο, αμάν, για βρούμα. Αμάν, κούσο.
Merci beaucoup.
Merci Louise, merci Nils Kassab, merci Thomas Loré, merci Clémence Gabrielidis de Café Gata pour ce moment musical. Vous écoutez toujours à la jeunesse les micros. On est toujours au Cloître Saint-Louis en compagnie de Baptiste Amann, Katia Roux et Vladimir Steyer. On attaque la troisième et malheureusement la dernière partie de notre émission sur le thème des tribunaux populaires et de la cancel culture.
Moi, je voulais revenir sur ce que disait Mariama sur son rapport aux algorithmes. Okay. Parce que j'ai l'impression qu'en fait, ça permettait de mettre en avant le nœud. C'est-à-dire que moi, par exemple, je ne sais pas trop en vrai ce que c'est qu'un algorithme. Mm-hmm. Je sais que, par exemple, c'est ça qui me permet là de composer la meilleure playlist sur Spotify parce que ça me propose des suggestions en fonction de ce que j'ai déjà mis. Mm-hmm. Et en même temps, je sais que c'est un truc qu'il faut à plein d'endroits dénoncer parce que c'est problématique. Et du coup, je reviens sur une partie d'un moment dans Lieu commun où il y a un personnage qui justement parle du regard et qui dit « On travaille son regard de la mauvaise manière, on laisse dominer le visible, or le regard doit pouvoir s'exercer aussi sur ce qu'il ne voit pas, ouvrir d'autres images derrière l'image. » Et du coup, avec ça, j'ai l'impression, Baptiste Amann, qu'on propose une vision du regard comme un muscle qu'on pourrait exercer.
Oui, j'ai l'impression que le regard peut fonctionner comme un dispositif d'assignation et que si on l'exerce, il peut devenir une fenêtre ouverte sur l'altérité. Mais qu'effectivement, il y a la question du regard. Par exemple, on dit ce qui nous regarde comme ce qui nous touche. Et en fait, finalement, on regarde les choses autant qu'elles nous regardent. Et donc, dans cet aller-retour, il y a quelque chose à exercer, effectivement, qui fait qu'il y a... C'est vraiment une banalité de dire ça, mais de dire qu'il y a les premières impressions, ce qui va saisir le regard dans son immédiateté. Et puis, en fait, qu'est-ce que l'image montre et ce que l'image démontre. Et puis aussi, il y a la question, je crois, de à qui appartient le... Il y a un autre personnage qui dit à qui appartient le regard de celui qui regarde et à qui appartient le regard de celui qui est regardé. Et je crois que dans les constructions d'une image, il y a cet aller-retour là. Alors quand il s'agit d'une chose ou d'un fait qu'on observe, l'aller-retour il est moindre. Mais quand il s'agit de deux personnes, c'est un double aller-retour en fait qui s'opère et qui effectivement est délicat à décloisonner. En tout cas, il y a un exercice du regard qui peut se faire. En tout cas, moi, j'ai eu l'impression que qu'au théâtre, ça a été sans cesse ça. J'ai d'abord rien compris à ce que je regardais, parce que je ne connaissais pas du tout le théâtre et que j'étais dans un environnement où il n'y avait pas de proposition théâtrale. Et puis que, quelque part, après, il y a une initiation qui s'opère et on finit par regarder autrement les choses.
Et justement, vous parlez de regard et justement, la question de point de vue dans votre œuvre est hyper intéressante parce qu'il y a beaucoup de points de vue qui sont très différents dans votre pièce de théâtre sur un drame, et vous laissez de la place et pour parler du ressenti de chacun sans minimiser quoi que ce soit, et autant de place pour chaque point de vue. Comment est-ce que ça se passe au niveau de l'écriture?
La tentative, elle est de ne pas juger les personnages et de respecter leur perspective dans l'idée que ce qui va tenir la pièce, c'est justement la convergence de ces différentes perspectives, comme si finalement il n'y avait de vérité que par la multiplication des perspectives qui convergent vers un point qui pourrait être la vérité, mais qu'une vérité appartenant à une seule perspective ne tiendrait pas. Enfin, il y a une axiologie qui ne marcherait pas. Et donc, en fait, il y a ce travail de n'essayer de pas, mettre le personnage ne soit pas au service du bien ou du mal, mais au service de tenir une forme de vérité comme étant un des maillons de la chaîne qui va former l'étau autour de cette vérité.
Un lieu commun, en fait. Et ça a super bien marché parce que justement, je tenais à dire que j'étais perdu parce que mon esprit de spectateur ne comprenait pas ce qui se passait. Parce qu'un instant, dans un conflit, j'étais on présente un des parties et je m'identifie à lui. Et deux secondes après, l'autre partie, je m'identifie aussi à lui. Et du coup, je suis moi-même en conflit avec moi-même. Est-ce que c'était voulu, ça, pour les spectateurs, qu'on ressente ce truc-là, ou je suis tout seul?
Je pense qu'effectivement, il y a des ambivalences qui, quand on est dans un espace safe, comme il était évoqué tout à l'heure, ça peut être dans la solitude, en fait, de sa chambre. On peut s'autoriser à avoir des états d'âme ou des moments de complexité qu'on ne pourrait pas s'autoriser, soit sur le terrain de l'action politique, ou tout simplement quand un affect est sollicité et que tout à coup, on estime que c'est toi ou moi dans la discussion. Et là, on se rend bien compte qu'on commence à agencer des arguments qui vont de plus en plus être entraînés par une forme de mauvaise foi et qui n'est plus du tout reliée à cette part d'antagonisme qui nous traverse tous. Moi, je reste convaincu qu'effectivement, on a raison, tout le temps, tous, mais sans doute un petit peu tort aussi, quoi. Mais c'est des aveux de faiblesse qui ne sont pas possibles à tous les instants. Mais effectivement, tant mieux. Moi, je suis très heureux de t'entendre dire ça, parce que j'essaye de travailler à ce que, justement, la position de chacun, en tout cas au moment où intervient l'idée, elle ne soit pas cynique. Il n'y ait pas quelque chose où j'écrirais le point de vue de quelqu'un en donnant un peu le signe que ça, c'est mal pensé, quoi, par exemple.
Alors, on va s'interrompre un instant. Cette émission est diffusée sur un tas de radios un peu partout en France, des radios associatives, mais aussi des radios du réseau Campus. Et cette semaine, il y a 5 jeunes du réseau Campus qui nous ont fait des capsules sonores enregistrées à Avignon. Le premier extrait, c'est « Des cadavres exquises ». Comment suis-je arrivé là ? Un plongé dans l'effervescence du festival.
Cadavre exquise. Capsule sonore décomposée depuis l'extérieur des salles de théâtre du Festival d'Avignon.
Je descends du TER numéro 4837. Avignon, 14h04. 30 degrés. Ma bouteille d'eau est dans la poche arrière de mon sac. 50 litres de marque italienne. Bon. Dans 16 minutes, je vais voir changer l'eau des fleurs.
Mais écoute, je te souffle.
Je quitterai le théâtre du Chêne Noir.
Voilà le temps.
J'ai soif, je bois. Il sera 16 heures, il fera 32 degrés, 45% d'humidité. La crème solaire? Où est la crème solaire? Pas de panique. La crème solaire est sur ma peau. C'est une UV 50.
Et ayons bien
bon.
Calculé le moment.
Sur les coups de 17 heures, je dégusterai un café, tant qu'il est chaud. Un caillou dans mon verre d'eau. J'ai chaud. À 17h13, je ferai 113 pas pour me rendre aux 11 rue Raspail.
J'ai été tel un fleuve des.
C'est le 11 théâtre.
Tourné de mon cours par
spectacle, ouvrez les guillemets, les héroïdes, fermez les guillemets. Je paierai 11 euros en espèces. Je rentre, j'observe, je sors, tout ira bien. Bon, à 21h précisément, je me hâterai au rouge-gorge, voire à bout de souffle.
Alors on va aller voir ça. Algorithme.
5 de cœur, un air de fête.
Marassade.
La valise Sophie Borst.
Véritable Saint-Genest.
Ouais, ouais. C'est fini, là.
Grand-mère, elle m'a dit qu'il y avait 200 spectacles de plus et tout.
C'était 1600, l'année dernière c'était 1400.
Voyage en territoire perdu.
Aller-retour. Sauvé bâtard.
Gretel et Hansel.
Et non, pas parfaitement.
Vanessa Dion.
Stop.
Et aussi, je voulais qu'on lise le poème d'Anna Akhmatova.
Le pays à la fièvre. Voilà le temps où nous nous avisâmes de naître, et ayant bien calculé le moment, pour ne rien manquer de ces spectacles sans précédent, nous prîmes congé du néant. J'ai été tel un fleuve, détourné de mon cours par un temps sans pitié.
Une capsule sonore qu'on retrouvera à chaque émission, signée par les membres de Radio Campus, Elena, Emma, Erwan, Isabelle, Laura et Paul. Avant de se quitter, est-ce que vous aurez un dernier mot à nous dire ? Katia Roux, pour commencer.
Peut-être pour terminer avec le sujet sur lequel on a commencé, les réseaux sociaux et leur utilisation par les jeunes. Peut-être, moi, ce qui m'a frappé dans tout le travail qu'on a mené sur cette question, c'est la lucidité des jeunes utilisateurs et utilisatrices quant à leur expérience en ligne, ce qu'ils veulent, ce qu'ils ne veulent pas. Ce qu'il et elle souhaitent voir évoluer. Et il faut s'inspirer un peu de ça. C'est ce qu'on essaye aussi de faire. Il faut renforcer cette sensibilisation. Il faut renforcer la mobilisation. On sait en réalité ce qui pourrait rendre l'Internet plus vertueux, les réseaux sociaux plus respectueux des droits humains.
Qu'est-ce que c'est, par exemple ?
Alors, par exemple, c'est un changement fondamental. Alors là, si c'est pour terminer, on est mal. Hein, c'est
on veut des solutions.
En quelques secondes, c'est de changer ce modèle d'activité des réseaux sociaux, c'est-à-dire ne pas fonder leur fonctionnement sur la captation des données et la publicité ciblée. Par exemple, si on interdit la publicité ciblée en ligne, on peut avoir un tout autre modèle de développement économique, un autre fonctionnement. On peut avoir plutôt un fonctionnement et une approche des réseaux sociaux où les jeunes, par exemple, vont pouvoir, de manière libre, éclairer et préalable, décider les sujets qu'ils et elles veulent voir sur leur fil d'actualité et pas les subir. Pas finalement voir leur fil envahi de vidéos parce qu'ils ont été surveillés et profilés en ligne. Donc on pourrait changer ça, on connaît. Ça passe évidemment par de la sensibilisation, de l'accompagnement, mais en réalité, s'il n'y a pas un changement de fonctionnement des entreprises qui veulent faire du profit au détriment des libertés, souvent, ça ne marchera pas. Et donc il faut aussi que les États puissent obliger les entreprises qui ne vont pas s'autoréguler, hein, c'est pas dans leur habitude, poser des cadres réglementaires, poser des lois, une gouvernance au niveau national, régional, voire international, pour s'assurer que voilà, l'espace en ligne soit un environnement sain, sûr, et qu'il soit véritablement vecteur de créativité, de partage, de liberté d'expression dans le respect des droits humains.
C'est pas un peu utopique, là, désolé, hein, c'est de ma génération d'être un peu pessimiste. Est-ce que c'est pas un peu utopique de...
Très honnêtement, je ne crois pas, parce que on est en train d'avancer. On est à un moment où on commence à avoir du recul aussi sur ce qui est en train de se passer. Il y a des études, il y a des rapports, il y a des campagnes qui sont menées sur le sujet. Il y a des tout récemment, l'année dernière, il y a un règlement européen qui a été adopté, qui pose pour la première fois des obligations aux grandes plateformes du numérique pour plus de transparence, pour pouvoir être audité, pour interdire la publicité qui vise les plus jeunes. Donc, on a des choses à construire. Ça doit aller plus vite, ça doit être plus ambitieux, mais il faut... Il ne faut pas se désespérer, il y a des solutions et il faut simplement les mettre en œuvre.
Vladimir Steyer.
Aaron Schwartz, par exemple, hein, je lance un truc, il s'est battu pour quelque chose. Est-ce qu'il a des successeurs aujourd'hui et quels sont ses héritages, si vous pouvez nous les résumer rapidement ou...
Ben non, les successeurs actuels, voilà, ben y a Julian Assange qui vient tout juste de sortir de prison, mais donc qui lui prône toujours une transparence de l'information pour tous les citoyens et qui considère, à tort ou à raison, que le ciment d'une démocratie est l'information totale. Donc je pense à lui, je pense aussi à Chelsea Manning, qui est la personne qui lui a transmis voilà, tous les documents concernant l'armée américaine et ses exactions. Voilà, il y a aussi plein de gens. Voilà, donc Aaron, lui, avait téléchargé illégalement des thèses et des articles scientifiques payants pour les remettre en ligne gratuitement pour que tout le monde puisse y accéder. Et aujourd'hui, on se trouve notamment dans des pays de l'Est de l'Europe, il y a des hackers et des hackeuses qui téléchargent des thèses médicales pour les remettre en ligne gratuitement sur le dark web pour que tout le monde puisse y accéder et que l'accès à la connaissance et à l'information ne soit pas réservé qu'à une élite occidentale. Donc c'est ça.
Et Baptiste, le dernier mot, ça va être pour toi.
Alors, je ne sais vraiment pas quoi dire, pour le coup.
Peut-être ton rapport aux réseaux sociaux ou si t'as...
Alors, mon rapport aux réseaux sociaux, il est un peu... moi, je n'ai qu'un réseau social, puis c'est un réseau social de vieux, puisque c'est Facebook.
Ça va.
Et puis, mon rapport aux réseaux sociaux, je dirais qu'il est un peu... pareil, dans une ambivalence, à la fois, il y avait une formule que j'avais entendue que je trouvais très juste, que les écrans de nos réseaux sociaux agissaient comme des miroirs privés, des vitrines publiques, en fait. Donc, à la fois sur ce mélange de privé-public qui fragilise énormément, c'est-à-dire ce qu'on y dépose, et qu'est-ce qu'on vient rassurer, qu'est-ce qu'on vient alimenter comme narcissisme, et en même temps, à quel point on s'expose. C'est un rapport ambivalent, je dirais.
J'aimerais vous demander à vous, les jeunes, est-ce que vous avez, je suis un jeune aussi, je le reconnais, mais est-ce que vous avez des expériences positives à nous partager par rapport aux réseaux sociaux, quelque chose de bien que vous avez vu récemment?
Moi, tout bêtement, c'est vraiment comment j'ai essayé de trier sur Instagram les comptes que je suivais pour avoir vraiment des comptes d'informations qui m'intéressaient. Avec les informations qui m'intéressaient, que je trouvais manquant dans plein de médias télévisés ou juste ailleurs sur Internet. Mais j'ai l'impression que du coup, la question de savoir si on doit briser Internet, c'est de savoir justement en fait, comment se réapproprier Internet et justement rentrer dans le conflit avec ce truc-là qui nous dépasse un peu et de se dire on ne le maîtrise pas, mais en même temps, le questionner, c'est déjà quelque part essayer de le briser. Je ne sais pas.
Ouais, je pense qu'il faut... L'Internet, ça peut être vraiment une arme. Et comment est-ce qu'on peut utiliser ce moyen-là pour acquérir du savoir aussi? Moi, je sais que dans ma construction personnelle, sur le point de vue pensée, que ce soit politique ou personnel, je suis sur Twitter depuis que j'ai 13 ans. Et ça m'a fait rentrer dans des... Ça m'a donné accès à des savoirs qui sont féministes, qui m'ont mené vers l'intersectionnalité, dont vous parlez justement dans votre spectacle, ou d'apprendre sur... la vie de plein d'autres personnes et en fait pourquoi est-ce que pour moi c'est important de lutter pour les droits de tout le monde, donc plein de choses comme ça. Il y a un truc dans Internet qui peut nous donner beaucoup beaucoup de savoir et peut-être que se concentrer sur cette partie-là d'Internet, ça peut être une des façons de faire un pied de nez aux réseaux sociaux et d'apprendre plein de choses et nous l'utiliser vraiment mieux.
Ouais, moi aussi clairement je suis d'accord et plus par exemple sur le côté santé ou vraiment la santé physique. Moi, c'est Insta et s'il y avait quelqu'un à remercier, je le remercierais parce qu'en vrai, ces dernières années, j'ai appris plein de choses et j'ai choisi de m'y intéresser, de voir ces personnes. Du coup, j'ai expérimenté de mon côté comme si c'était un ami que j'avais rencontré dans la vie réelle. C'était des amis, mais pas du tout. C'est juste des gens librement qui postent des vidéos dont je me suis inspiré pour juste me sentir mieux dans ma vie, tout simplement. Donc, je trouve ça super magnifique. Il ne faut pas oublier que ça existe quoi, et que c'est possible. Il n'y a pas que du mal.
Ouais. Ben écoute, je te dirais que c'est un peu comme tout en ce bas monde. Internet, ça devient ce que t'en fais. Mm-hmm. Mais c'est vrai que je rejoins les autres sur ce qu'ils ont dit. Le côté informatif est très pratique. Mm-hmm. Par exemple, notamment sur la santé. C'est sympa à l'avoir à portée de main. Après, peut-être que moi, je ne suis pas le plus à même de parler de ça parce que honnêtement, j'ai la chance, je baigne pas trop dedans, quoi.
Merci beaucoup les jeunes, c'était très émouvant. Avant de finir, nous allons écouter la chronique rappée d'Idriss. C'est une chronique qu'on aura tous les jours à la fin de l'émission. Idriss, c'est à toi.
Bonsoir tout le monde.
Cherche pas à savoir qui a tort, qui a raison.
Tu vas en perdre la raison, ça fait un moment que j'évite la maison. Toujours pas dormi, le chant des oiseaux me fait cogiter. À l'ancienne j'étais le type agité, maintenant je ferme ma gueule et je pense qu'à chiffrer. J'arrête pas de me dire qu'il faut que je reprenne la salade. Mon cœur est malade, rongé par la haine, mes démons m'appellent. J'en ai fait du mal, la fumée génale quand j'étais petit. Mon rêve c'était de voir papa et maman s'aimer. C'est dans la merde qu'on a ramé. L'impression que ma vie j'ai raté. L'amour s'achète et les sentiments se négocient. Je leur ai tendu mon bras, ils me l'ont coupé à la scie. Et si dans ma tête j'ai autant de mauvaises idées, c'est que mon cœur est vidé, une vie t'a compliqué. Et la nuit elle pleure, elle commence sa journée déprimée. Elle parle avec toi, mais son gars c'est compliqué. Elle a voulu se ranger, oui tout recommencer, mais son passé l'a rattrapé. Elle sait plus sur quel pied danser, je crois que ça l'a fatigué. Elle oubliera tout sur un matelas. Ce soir, je me joins de canin. J'ai jeté mon cœur dans le canal. J'arrive même plus à savoir où j'ai mal. Ça s'est terminé, c'est pas si mal. Ça s'est terminé, c'est pas si mal. J'aime pas me lever le matin ni dormir la nuit. J'suis possédé par mes ennuis. On reste tout du pavillon. J'réponds plus, j'suis dans le mode avion. J'voyage grâce à la potion. Mon cœur a subi trop de pression. J'en ai perdu quelques émotions. J'm'enferme, j'réponds plus sous la pluie. Mon téléphone, j'l'ai lâché au fond du puits. Elle oubliera tout sur un matelas. Ce soir, je suis ma joie de canard. J'ai jeté mon cœur dans le canal.
Merci, 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 merci.
Merci, merci, merci Idriss pour cette chronique musicale. C'est la fin de notre première émission. Merci à toutes et à tous d'avoir été présents, de nous avoir écoutés. Merci à nos invités Baptiste Aman, Katia Roux et Vladimir Steyer. C'est à toi, Elia.
Alors, vous avez craqué ? La tentation de regarder votre téléphone n'était pas trop forte ? Moi, quand je regarde mon temps d'écran, à chaque fois, je suis vraiment choquée. Et vous ? La semaine dernière, j'étais à 10h13 d'écran. Dans 8 heures de TikTok. Parce que moi, ça a le don de me faire passer d'une émotion à une autre. Je suis une éponge émotionnelle en plus. Je passe de l'image d'un enfant triste à une vidéo d'un humoriste qui fait un sketch. Et sans m'en rendre compte, je rigole, ou je pleure, ou alors je suis choquée par les commentaires violents que je peux lire. Par contre, j'achète rien. Hein. Rien ne me donne envie. Il y a trop de pubs. Et ce qui me ramène à la réalité, c'est mon père qui m'appelle depuis une heure. Et je me réveille. Et je suis fatiguée, je ne sais pas pourquoi. Une journée sans Internet, une seule, c'est possible ou impossible ? Moi, il faut que j'essaye. En tout cas, on vous remercie d'avoir été là, en chair et en os, et à demain, même heure.
Les micros. Les micros.
Les micros.
Ils sont acquis ?
Ils sont acquis ?
Ils sont acquis.
C'était à la Jeunesse les micros, un projet de Making Waves et du Festival d'Avignon. Avec aujourd'hui à l'antenne, Robespierre Ganrou, Linda Souakria, Renaud Lupovici, Noah Dimenza et Bertie Gado. Les chroniques étaient signées par Candice Florence, Mariama Saidi et Idriss Vivar. Le reportage par Louise Bréon et Renaud Lupovici. La séquence musicale était présentée par Louise Bréon avec aujourd'hui en live le groupe Café Gata. À la technique, Miguel Bruneau et Clément Chaise. Et à la rédaction de cette première émission, Basma Nasser, Enzo Coquerel et Elia Fedjak. Notre prochaine émission, intitulée « Tourner sa langue cette fois dans sa bouche et cracher », aura pour thème la liberté d'expression. On recevra l'universitaire Olivier Neveu, la compagnie Barreau d'Evel et les élus de Seine-Saint-Denis, Stéphane Troussel et Karim Bouamran. Vous pourrez retrouver l'ensemble des projets de Making Waves sur notre site www.makingwaves.org. Merci à tous et à demain.
À la jeunesse, les micros.